Ma vie a changé depuis que je sais qu'il m'aime. Jésus m'a changé, je ne suis plus jamais le même. Au fond de mon cœur, il n'y a plus que du bonheur qui chante au fil des heures. Un nouvel amour est venu habiller mes jours pour me
ton nom ce soir, nous invoquons le beau nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin de recevoir la paix, la consolation dont nous avons besoin et la force pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes pour nous chercher. Merci Jésus. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs et dans le cœur de tous ceux qui sont sur le net maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Amen. Maître, qu'allons-nous chanter?
L'amour dans tout ce que tu fais, le 18, et jouis-toi, et sois fidèle. Et de l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir, joyeux et souriant. C'est la joie avec Dieu, il y a bien plus de joie. À donner qu'à recevoir, joyeux et souriant à chaque instant. Et de l'amour dans tout ce que tu fais, réjouis-toi et sois fidèle. Et de l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé encore. Sois fidèle, mets de l'amour dans tout ce que tu fais, et tu seras comblé.
Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Eh bien, ça nous fait plaisir de se retrouver au froid. Le froid. Je ne sais pas combien il fait là, mais moi j'ai les mains gelées, j'arrive pas à les réchauffer. Nous sommes rentrés d'Israël, c'était hier qu'on est rentré, avant-hier déjà, oh ça passe vite. Et voilà, et j'arrive pas à me réchauffer. Michou, alors elle se balade en t-shirt, voilà, c'est rigolo, hein. Quand elle a froid, vous pouvez être sûr que j'ai chaud, et vice-versa. Et c'est comme ça, hein, c'est pareil que c'est des bons couples comme ça, je sais pas. Je vous invite à lire Apocalypse 22, 17 ce soir. Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur Internet, que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et celui qui entend dit « Viens !» Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Comme je vous disais, nous revenons d'Israël. Nous avons été invités par nos amis suisses, Arthur et Daniel, et on a passé là, en Israël, 15 jours. Ils nous ont gâtés. On était dans les meilleurs hôtels. Un jour, on était dans une chambre, et ça ne leur a pas plu. On avait tout déballé, hein, la Michou. On avait tout déballé, et tout d'un coup, « Oh non, non, ça, on va de cette chambre, c'est affreux !» Alors donc, on a changé de chambre. Ils voulaient le meilleur pour nous. Ils nous ont bénis, ils nous ont chouchoutés. C'était un moment, des moments formidables. Donc, on a visité. Mais alors, on ne peut pas visiter plus, je crois. Hein. On a tout fait là-bas. Hein. On est arrivé à... Dis-moi tout, déjà. à Tel Aviv, moi les noms, c'est terrible. Déjà la géographie suisse, mon propre pays, j'ai de la peine. Alors tu parles Israël, puis alors la France, faut pas me demander. La Bourgogne, c'est où dans le nord? Non, la Bourgogne, je sais. Donc voilà, on est arrivé à Tel Aviv, on est parti à Haïfa, ensuite on était allé à Megiddo. Vous connaissez Megiddo? Vous avez jamais entendu parler de Megiddo? Si, dans la Bible. Mais Megiddo, ça existe. Là, ils ont retrouvé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait des fouilles. Ils ont retrouvé l'autel le plus vieux, l'autel de sacrifice le plus vieux qui soit au monde, là où on pratiquait les sacrifices humains. Et vous savez très bien ce qui va se passer à Megiddo, c'est dans la vallée d'Armageddon. Et là, ça sera le grand sacrifice final, puisque toutes les nations ont rendez-vous là, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Toutes les nations ont rendez-vous là pour se battre contre Israël. Et nous savons que c'est pour bientôt, parce que 99,2% des prophéties sont réalisées déjà. Et maintenant, on sait que voilà, ce qui reste, ben, c'est ça. Et donc, lors de cette bataille, c'est Dieu qui interviendra lui-même et qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Alors, on a vu aussi le mont des Oliviers. On a fait tout le lac de Galilée. On a tourné. On est descendu par le Golan. On a vu les militaires. On veut tout. On voit là. On a pu parler avec eux plusieurs. C'était vraiment un moment béni. Et donc, nous sommes arrivés, donc, là, sur le mont des Oliviers. Nous l'avons vu. Nous avons même marché sur le mont des Oliviers. Et là, j'ai aidé, au nom de Jésus, à un paralytique à faire ses premiers pas. Oh, c'était pas, il a pas sauté, dansé, mais il a fait ses premiers pas. Et il était rempli de comment on pourrait dire, il était très surpris et très, très reconnaissant. Après, il était assis sur une pierre, il nous disait au revoir alors qu'on partait avec la voiture. Et c'était très touchant. Et la sœur Danielle, qui voulait traduire, parce que moi, je comprends rien, je sais rien, je peux pas, à part le français puis parler en langue, moi, je connais rien. Elle disait, oh, mais j'étais tellement émue que j'arrivais même plus à dire Dieu est grand en anglais. Alors, c'était touchant. Et c'est sur ce mont-là que Jésus va revenir après la grande tribulation qui durera 7 ans. Donc avant qu'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, il va y avoir l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est cette épouse-là qui dit « Viens Seigneur Jésus ». Et on ne peut pas faire autrement que de dire « Viens Seigneur Jésus ». Quand on est, si on est vraiment l'épouse de Jésus-Christ, alors on ne peut pas faire autrement, parce que c'est terrible ce qui se passe partout où vous allez dans le monde. Moi j'ai le privilège de voyager, je peux vous dire c'est terrible. Et quand Jésus reviendra, le mont des Oliviers se fendra en deux, nous dit la Bible. Et ça va faire, ce sera un tremblement de terre terrible. Il y a bien des choses qui vont être détruites. Des choses comme par exemple des trucs avec des coupoles en or. Ça va être détruit. Amen. C'est pas la main de l'homme qui va faire ça, c'est la main de Dieu. Et nous avons vu le chemin donc que Jésus va emprunter pour se rendre du mont des Oliviers jusqu'à la porte d'or, qui est fermée et qui ne s'ouvrira que lorsque le Messie sera là, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va être boum, ça va, les pierres vont tomber, il va pouvoir rentrer. Alors les musulmans, ils ont fait, je ne vous en veux pas, hein, les musulmans, si vous m'écoutez. Mais quand même, faut dire, ils ont fait un cimetière devant cette porte en disant, Jésus, si jamais c'est lui le Messie, ben il posera pas ses pieds là parce que c'est un endroit impur puisqu'on y a mis des cadavres. Tu parles que Jésus, il s'en fiche complètement de ça. Il passera quand même, hein. Et ils ont fait aussi un cimetière sur le mont des Oliviers, gigantesque le cimetière, hein. On l'a vu, c'est énorme, c'est géant. On dirait d'ailleurs que le mont des Oliviers, c'est un cimetière. Et puis alors aussi sur le mont Golgotha, ils ont fait un cimetière. Et sur le Golgotha, ils ont écrit en lettres immenses, immenses, « Dieu n'a pas de fils ». Alors vous voyez, aucun chrétien, aucun enfant de Dieu, aucun fils de Dieu, puisque nous sommes ses fils, il a des fils, hein, et aucune fille de Dieu, vous êtes ses filles, vous les sœurs, eh bien, ira tuer quelqu'un pour ce blasphème. Notre Dieu nous inspire autrement. C'est un autre Dieu qui a une inspiration de paix, d'amour, de bonté. Mais quand même, à la fin, il agira selon sa promesse, et on sait très bien ce qu'il fera. Tout ça, c'est écrit. Amen. Amen. Alors, on a marché un peu partout, on a marché, dans un endroit extraordinaire, c'est là où il y avait la communauté de Qumran. J'arrive enfin à le dire, Qumran, je ne savais pas le dire, il a fallu que je le voie et que je m'y intéresse, disons géographiquement pour me rendre compte, et Qumran. Et là, il y avait des croyants qui étaient sortis du système religieux, qui était corrompu à l'époque. Il avait été corrompu parce que les Grecs avaient enlevé la prêtrise, ils l'avaient donnée à des gens qui n'étaient pas de la descendance des Sadducéens, d'Aaron, et alors c'était donc impur, et les Esséniens sont sortis du milieu d'eux. Vous voyez, moi je trouve qu'on leur ressemble pas mal hein, aux Esséniens. J'aime bien les Esséniens pour beaucoup de choses. Ils vivaient en communauté, eux aussi vivaient en communauté. Et on sait que Jean-Baptiste était un des leurs, et c'était Jean-Baptiste, un Essénien, qui avait la charge de dire, voilà, le Seigneur Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous sommes là, en tant que nouveaux Esséniens, si vous voulez, en quelque sorte, pour dire, voilà, l'agneau de Dieu qui revient. Mais il vient plus comme l'agneau, il vient comme le lion, ça va être autre chose. Mais c'est nous qui sommes là, avec ce même esprit d'Élie, pour annoncer son retour. Alors, ces Esséniens, ils recopiaient les textes sacrés. Ils avaient rejeté tout ce qui n'était pas correct, toute la tradition orale. Ils ne voulaient que les écrits prophétiques de ce que nous avons dans l'Ancien Testament, et aussi les écrits qui étaient reconnus comme inspirés, c'est-à-dire le livre d'Enoch. Je vous recommande, sur vous qui êtes sur Internet, si vous n'avez pas encore commandé le livre, il est gratuit, vous pouvez le commander, le livre Paroles cachées, c'est le livre d'Enoch avec tous les commentaires que le Seigneur m'a inspirés. Donc ils ont écrit, recopié les écrits et caché tout ça dans les grottes. Je les ai vus. Mes yeux ont vu ces grottes. C'est magnifique. Je travaillais pendant 4 ans à ces écrits-là et puis d'un coup je les vois là. Elles sont, je ne vais pas dire à portée de main parce que c'est un panorama gigantesque. Je n'ai pas été dans les grottes parce qu'on n'avait pas le temps. Mais quand même, elles étaient là et on a marché là où les Esséniens marchaient, on a vu où ils mangeaient, on a vu où ils écrivaient, on a vu où ils prenaient leur bain rituel et toutes ces choses-là. Et je vous assure, ça fait quelque chose de marcher, de prier dans cet endroit. On a prié avec Michou, et de respirer dans cet endroit, ça fait drôle. Même de respirer. C'est un endroit où les écrits saints ont été tellement aimés, tellement respectés. Et protégés pendant des millénaires, puisqu'ils nous sont parvenus, et c'est seulement, je crois, en 48, c'est ça, qu'ils ont été découverts. Et puis, alors, bon, on a vu Jérusalem. Alors, Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est notre ami Victor Escroignard. Salut Victor, si tu nous écoutes, et ton épouse, les enfants aussi, on continue à prier pour vous. Victor, qui vit là-bas depuis plus de 17 ans, c'est lui qui nous a guidés. Je vous rappelle, enfin, pour ceux qui ne savent pas, Victor Escroignard, il est né le 5 février 1950, comme moi. Donc, vous voyez, c'est bientôt son anniversaire. Donc, c'est bientôt le mien. On s'est connus à l'école biblique le 4 février, la veille de nos 20 ans. C'était quelque chose de triste. Oui, il faut dire que c'était quelque chose de triste. Nos 20 ans étaient quelque chose de raté. Pour moi, fêter ses 20 ans, ça devait être quelque chose de formidable, avec du champagne et tout. Puis non, j'étais dans une école biblique où ça puait la peinture, parce qu'ils venaient de refaire les peintures, et où c'était triste comme c'est pas possible. Mais gloire à Dieu, c'est là que j'ai rencontré Victor Escroignard. C'est aussi là que j'ai rencontré Alain Wilhermo. Donc vous voyez, il y a quand même pas rien qui s'est passé dans cette école biblique. À part quelques études que... Bon, enfin, j'aurais pu en apprendre autant en lisant des bouquins. Et donc, avec Victor Escroignard, on marchait dans Jérusalem. Il nous a montré l'endroit où le champ qui a été racheté, vous savez, avec les 30 deniers qui ont servi donc le prix du sang, le prix de Jésus-Christ. Il nous a montré, c'est devenu un lieu de spectacle. Ils ont fait des gradins, puis il y a des chanteurs, des danseurs qui sont là. Ça. Puis juste après, il y a un pont. Et c'est la vallée de la Gêne qui commence. Ça fait drôle de voir ça. J'ai écrit sur ça, mais je n'avais pas vu. Maintenant, j'ai vu. Alors, donc, on marchait dans Jérusalem. Il nous a montré des tas de choses. J'ai appris qu'Hérode était homosexuel. Enfin, j'ai appris plein de choses. Très intéressant, avec Victor. Et au coin d'une rue, qu'est-ce qu'on voit ? On aurait dit un petit rabbin avec une barbe blanche. On a presque dit paillon. Et de dos, hein, de face, il était beaucoup plus souriant. Et il était en train d'effacer un graffiti sur une plaque, c'était écrit en hébreu, mais Victor nous a traduit, c'était une plaque qui disait où se trouvait sa synagogue. Et le graffiti, c'était en hébreu, une insulte hérétique. C'était marqué que c'était des hérétiques. Alors, voyez, il y a aussi des problèmes entre juifs religieux. Et les juifs religieux, ce que... On voit avec leurs chapeaux, leurs cheveux, vous savez, les espèces de papillotes, je ne sais pas comment on dit, ils traitent les Karaïtes d'hérétiques. C'était un Karaïte, Et Victor me dit, mais tu sais, les Karaïtes, c'est les descendants directs des Esséniens. Je dis, c'est pas possible. Il dit, si, c'est pas possible. Mais si. Alors il essaye de, on commence à discuter avec lui, parler l'anglais, on a pu parler. Et puis, très touché de savoir qu'on était respectueux de tout ce qui concernait les Esséniens. Donc, les Karaïtes qui sont les... Alors, parce que eux aussi, ils sont sortis du milieu rabbinique et de toutes ces histoires et de toutes cette religion judaïque corrompue. Ils ont rejeté le Talmud, ils ne veulent que la Bible et que la Bible. Alors, il était très touché de ça, alors il nous a dit, écoutez, je vous invite dans ma synagogue, c'est la seule synagogue au monde qui se trouve en sous-sol. Alors on est allé, alors c'était formidable, on est descendu des escaliers. J'espère que ça vous intéresse, non? Oui? On est sorti des escaliers. Et là, il y avait un taillé dans la pierre, comme un lavabo, un bassin. Alors, on s'est lavé les mains, nous expliquer, parce que tout ce qu'on a touché à l'extérieur, c'est impur. Mais là, maintenant, on rentre dans un endroit qui est consacré à Dieu. Donc, on se lave les mains. Et puis là, il nous a parlé, il nous a dit, voyez, on n'est pas 10, mais on peut se réunir dans la synagogue et prier. Alors, on a prié un moment. Il dit, parce que les religieux, ils croient qu'il faut être 10 pour prier. Mais nous, on croit, selon les Écritures, que là où 2 ou 3 sont assemblés. Ah, oh, je dis, c'est pas possible, vous croyez? Il me dit, oui, pourquoi? Je dis, mais parce que Jésus a dit la même chose. Il dit, mais Jésus n'était pas un religieux, il était quelqu'un selon les Écritures. Alors, ça a établi une communion, c'était formidable, c'était vraiment formidable. Et alors, bon, je lui ai dit aussi que j'avais fait des commentaires sur le livre d'Enoch, des Esséniens. Alors, on a parlé de 2, 3 choses. Ah, mais j'ignore ça, mais je savais pas. Je vais me replonger dedans. Alors, il était très, très intéressé. C'était passionnant. On a vécu un moment formidable. Et puis après, on est ressorti. Mais il dit, alors maintenant, avant de sortir, il faut de nouveau vous laver les mains. Alors, peut-être vous allez trouver étrange. Puis on est dans un lieu pur et puis qu'on se lave les mains pour retourner dans un endroit souillé. Il dit, je vais vous expliquer. C'est simple. C'est que, ayant été au contact avec les choses pures, on ne va pas les apporter dans le monde souillé. Alors on se lave les mains pour retourner dans ce monde qui est corrompu, qui est souillé. On n'apporte pas les choses pures. Et moi, ça m'a fait penser, ne jetez pas vos perles au pourceau. Il y a des choses qui sont juste pour les enfants de Dieu. C'est juste pour nous. Et c'est pas pour les gens qui se moquent et qui se fichent de nous. Parce qu'ils peuvent même pas comprendre, les pauvres. Donc, ils fouleraient ça avec leurs gros pieds sales. Donc, voilà. Et puis, donc on a vécu, je vous abrège tout ça, je vous montrerai, j'ai fait un film, et je vous le montrerai certainement dimanche après-midi. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on voit ce pays, on s'aperçoit que toutes les prophéties sont presque toutes réalisées. C'est extraordinaire ce que ces gens ont réussi à faire en moins de 100 ans, les maisons, les routes, les champs, les arbres. C'est un pays magnifique. Et ils ont fait ça, tout ça, en moins de 100 ans. On va me dire, oui, ils ont été aidés. Ben, évidemment, ils ont été aidés. Il y a beaucoup de Juifs partout dans le monde qui ont envoyé de l'argent, qui sont allés travailler. Mais ils ont travaillé, ils ont vraiment bossé. Et on voit qu'on arrive à la fin des temps où cet Israël qui est tout petit, eh bien, c'est une pierre qui est lourde, qui est pesante pour les nations. On arrive à la fin des siècles. Ça, c'est selon les prophéties. Alors, la question que je pose ce soir, c'est comment allez-vous finir votre course? Parce que pour Israël, on sait comment Israël va finir sa course terrestre. Les prophéties sont là, et nous soupirons après l'accomplissement des prophéties. On espère, on attend, on sait que c'est pour notre génération, mais vous, comment allez-vous finir votre course? Je vais vous raconter une histoire, elle va plaire à Richie, cette histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée l'année de ma conversion, en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico. Alors, c'était un Tanzanien du nom de John Stephen Akawari. Il est arrivé à la fin de la course, le dernier. Une heure après le vainqueur, il y avait encore des gens qui attendaient. Et il était complètement déshydraté, il était même hagard un peu, il saignait, il avait des crampes affreuses, et il y avait quelques personnes qui étaient là pour l'applaudir, mais sa course, elle est encore à l'heure actuelle la plus célèbre dernière place de l'histoire. Pourquoi? Vous savez, ceux qui l'ont applaudi, et ceux qui l'admirent encore aujourd'hui, près de 50 ans après, n'admirent pas sa performance. En général, dans un sport, on admire la performance. Non. Ils admirent et nous admirons son désir absolu de finir la course, d'endurer jusqu'à la fin pour arriver à la fin de la course. Un journaliste a demandé à cet athlète, John Stephen Akawari, « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas abandonné votre course? Vous saviez bien que vous ne pourriez pas gagner, et puis de plus, vous alliez peut-être être même le dernier. En fait, c'est ce que vous êtes, le dernier. Comment ça se fait que vous n'avez pas abandonné ?» Et John Stephen Akawari a répondu « Mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico pour commencer la course, mais il m'a envoyé pour la finir. » Ça a marqué les imaginations, ça a marqué les cœurs, ça a marqué les consciences. Vous voyez, Israël se bat, ça fait des siècles, ça fait des millénaires. L'Église, la véritable Église de Jésus-Christ se bat aussi, persécutée. Et nous, chacun d'entre nous, nous faisons face à des défis, mes frères et sœurs, dans notre propre course, dans notre propre vie. Et nous devons avoir la même attitude que celle de John Stephen Akawari. On va lire Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 3. Je vous lis ça. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alors on me dirait, oui, mais moi je ne suis pas un athlète formidable dans la course. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas l'athlète le plus agile de la foi que la terre ait portée, mais vous avez été envoyé sur cette terre pour finir la course. Amen. Dans Ecclésiaste 9, 11, il est écrit « La course n'est pas pour ceux qui sont agiles. » Parce que la vérité, c'est que le prix de la course, il appartient à celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. C'est ça la vérité. Comment apprendre, mes frères et sœurs, la persévérance? Comment apprendre la persévérance si nous n'avons pas pris l'habitude d'abandonner quand les choses commencent à être difficiles? C'est justement quand ça devient difficile que c'est là qu'on redouble d'efforts, qu'on se laisse pas décourager. Rappelez-vous Raphaël qui vous dit « Le diable vend des armes, mais l'arme la plus grande qui vend, celle qui est plus efficace, c'est le découragement. » Nous avons vu, Michou et moi, nous avons vu, et vous avez vu, pour Israël, c'est un temps difficile. Pour la véritable Église restaurée de Jésus-Christ, c'est aussi un temps difficile. C'est aussi un temps difficile. Mais mes frères et sœurs, de tout temps, pour tous les prophètes, pour tous les croyants, ça a été difficile. Les écrits anciens sont là. On a la Bible, on a les manuscrits de la Mer Morte, on a toutes ces choses-là. Dans les anciens écrits, ils sont là pour nous donner du courage, pour nous montrer que d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants, d'autres jeunes gens ont persévéré, ont couru jusqu'au bout, même s'ils étaient ensanglantés à la fin, même s'ils étaient épuisés, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner le premier prix, ils ont quand même été jusqu'au bout. Jésus a été jusqu'au bout. Et sa promesse, c'est la vie éternelle. À ceux qui gardent ses commandements, à ceux qui gardent sa parole et qui finissent la course. N'est-ce pas écrit? N'est-ce pas comme cela que c'est écrit? C'est écrit, mes frères et sœurs. Alors, il faut que nous nous attachions à notre saint devoir, jusqu'à ce que ce saint devoir s'attache à nous, finir cette course. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent, mais il y en a peu qui finissent. Ça, c'est une paraphrase de « il y en a beaucoup qui sont appelés, mais il y en a peu qui sont élus ». Il y en a beaucoup qui commencent, mais il y en a peu qui finissent. Alors mes frères et sœurs, je vous encourage à transpirer pour accomplir votre devoir saint. Je vous encourage à souffrir même pour accomplir votre devoir saint. C'est ça qui fera de vous le vainqueur dont parle Apocalypse 3, 21. Ces vainqueurs-là seuls pourront rentrer dans la présence du Seigneur, dans la pyramide, dans la nouvelle Jérusalem. Les autres, ben, ils régneront, ils seront sur la terre. Bon, ben, c'est déjà pas mal, mais enfin, moi, je veux pas. S'il y a mieux, je veux mieux, pas vous. Eh bien, il s'agit pas d'être des super-héros qui gagnent le premier prix. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, de garder la foi, d'avoir la bonne attitude, et d'arriver jusqu'au bout, même une heure après les autres, mais d'arriver jusqu'au bout. Alors, endurer. Endurer, ça signifie résister avec courage. Endurer, endurer, résister. Mais ne résistez pas à long terme, résistez un jour à la fois. Hein, je vous dis, j'ai toujours dit ça. Si pendant un jour, vous n'arrivez à pas pécher, ben bon, c'est bien. Et puis, demain, on verra. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, résistez un jour à la fois. Vivez un jour à la fois. Ne vous dites pas, ah, mais comment ça va être demain? Ah, mais ça va être terrible la semaine prochaine. Ah, mais... Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et puis, en particulier, maintenant, c'est maintenant. Et maintenant, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole vous dit, vis le moment présent. Vis aujourd'hui. Pose ton pas aujourd'hui. Prends ta position aujourd'hui. Cours, mais un jour à la fois. Ne joue pas ta course que tu courras dans 20 ans, dans 30 ans. Nicolas m'a dit, ah, quand j'aurai 60 ans, je boirai une bouteille de vin avec toi. Ah, ben dis donc, je peux attendre. Quand il aura 60 ans, j'en aurai 80, je crois même pas, je crois que Jésus sera revenu avant. Hein. Donc, je boirai jamais du vin avec Nicolas. Non, je bois du vin aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vivre aujourd'hui. Mais vivez aujourd'hui, courez aujourd'hui, résistez aujourd'hui, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera. Il suffit pas simplement de croire, mais il faut persévérer dans cette croyance, persévérer dans la croyance. Et la croyance, la vraie foi, c'est celle qui est active, mais qui est active dans la persévérance jour après jour, après jour, après jour. Qui se souvient de celui qui est arrivé numéro 1 dans cette fameuse course en 1968? Ben, il y en a quelques-uns. Peut-être Richie s'en souvient, parce que c'est un sportif professionnel, il s'en souvient sûrement, mais moi, et beaucoup de gens, par contre, l'histoire de John Stephen Akawari, alors, elle vit encore, cette histoire. En fait, il a eu, je vais dire un truc bizarre, il a eu une héroïque défaite. Une héroïque défaite, hein, quand tu dis... Ouais, j'arrive à rien, ah bon, j'en suis encore que là, après toutes ces années. Un journaliste a écrit, aujourd'hui, nous avons vu un jeune coureur africain qui symbolise ce qu'il y a de mieux dans l'esprit humain, une performance qui donne la signification du mot courage. C'est pas magnifique, ça? C'est pas magnifique? Ça vaut toutes les médailles d'or, à mon avis. Il a fini la course. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il était un représentant de la Tanzanie. Vous êtes représentant de qui? De Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Vous êtes son représentant. Vous avez été envoyé sur la terre pour courir la course. Et vous êtes représentant de Jésus. Il connaissait son objectif. Qu'est-ce que c'était? De gagner? Non. C'était de participer, comme on dit. Et puis d'aller jusqu'au bout, de finir la course. C'était Coubertin qui avait dit, l'important c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Et c'est vrai, il faut participer, il faut continuer, il faut persévérer. Il savait qu'il devait endurer jusqu'à la fin. Il le savait parce qu'il savait très bien pourquoi. Parce que c'était pour pouvoir retourner dans son pays avec la tête haute. J'ai été jusqu'au bout. Voilà ça. C'est ça la perfection, mes frères et sœurs. C'est ça la perfection. Alors la question est là, vais-je faiblir ou vais-je finir? Vais-je faiblir ou vais-je finir cette course? Eh bien, c'est de la réponse que tu vas donner que dépend ta joie et ton bonheur, tant ici-bas que dans la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, on en reparlera encore de ta course, avec tous tes problèmes, tous tes échecs cuisants, toutes tes difficultés et de toutes tes crampes, de tous les moments où tu es tombé et que tu t'es relevé et qu'avec courage, tu as achevé ta course. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à comprendre cela, à graver cette chose-là dans leur cœur avec des lettres d'or. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen.